Entre mai et octobre 1870, Rimbaud part sur les routes. Il écrit la plupart des poèmes des Cahiers de Douai, les confie à son ami poète Paul Desmenis et met au point sa méthode poétique. Le 15 mai 1871, Rimbaud écrit à son ami une lettre célèbre. Il a décidé de se faire voyant par un immense et raisonné dérèglement de tous les sens. Un mois plus tard, il lui demande de brûler les deux Cahiers de Douai. Heureusement, Desmenis n'en fera rien, mais après cela, Rimbaud n'écrira plus jamais de la même manière. Il composera des poèmes comme « Le bateau ivre », puis « Une saison en enfer » et « Les illuminations ». Comment les Cahiers de Douai ont-ils constitué pour Rimbaud une expérience créatrice et émancipatrice décisive? C'est ce que nous allons essayer de comprendre à travers ces 12 thèmes. Sur mon site, vous trouverez une explication linéaire de chaque poème, ainsi qu'une série de dissertations, des podcasts et fiches PDF. Si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas à soutenir mon travail. Pour le prix d'un livre de poche, vous accédez à toute ma bibliothèque. Dans notre recueil, la première expression poétique passe à travers les baisers. Première soirée s'appelait d'ailleurs d'abord « Comédie en trois baisers », où dans ce poème, les baisers remplacent les répliques des personnages. Alors que dans les réparties de Nina, Nina ne répond aux baisers du poète que par des éclats de rire. Chez Rimbaud, la naïveté de l'amour est souvent ainsi menacée par la dérision. Dans « À la musique », le poète se tient à l'écart de la fanfare militaire, admire les jeunes filles et ne dit pas un mot, mais des baisers lui viennent aux lèvres. Cette poésie des baisers serait alors la véritable musique célébrée par le titre. De même, dans « Roman », l'éloignement de la ville produit une ivresse qui fait monter aux lèvres certainement les vers d'un poème. « Nuit de juin, 17 ans, on se laisse griser, la sève et du champagne vous montent à la tête, on divague, on se sent aux lèvres un baiser qui palpite là comme une petite bête. » On retrouve d'ailleurs cette petite bête dans « Le wagon rose » de « Rêver pour l'hiver ». « Et tu me diras, cherche en inclinant la tête ». Et nous prendrons du temps à trouver cette bête qui voyage beaucoup. Cette petite bête qui vagabonde, ce n'est donc pas qu'un baiser, c'est le wagon rose, le poète en fugue, les rimes qui s'égrènent, une invitation à la poésie et au voyage. Dans La Maline, la servante se comporte étrangement, et pour obtenir un baiser dit avoir pris une froid sur la joue. Pas besoin d'une ruse complexe, un simple détour suffit. La poésie est une fausse énigme, dont la réponse est un baiser. Dans Soleil et Cher, le baiser est inspiré par Vénus, grande force d'amour qui traverse la nature et que le poète tutoie. Tu surgiras, jetant sur le vaste univers, l'amour infini dans un infini sourire. Le monde vibrera comme une immense lyre dans le frémissement d'un immense baiser. Pan, du antique de la nature, est une figure du poète qui arrondit ses lèvres pour jouer de la flûte de Pan, du syrinx. Ou, baisant mollement le clair syrinx, sa lèvre, modulait sous le ciel le grand hymne d'amour. Où debout sur la plaine, il entendait autour répondre à son appel la nature vivante. Derrière les émois amoureux se cache donc un grand amour plus profond, l'amour infini de la nature, que le poète trouve en fuguant, dans Sensation par exemple. Mais l'amour infini me montera dans l'âme, et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien, par la nature, heureux comme avec une femme. Et en effet, une femme, une poétesse, hante le recueil des Cahiers de Douai. Ophélie, personnage du Hamlet de Shakespeare, est bouleversée par le chant de la nature. C'est qu'un souffle tordant ta grande chevelure, à ton esprit rêveur portait d'étranges bruits, que ton cœur écoutait le chant de la nature dans les plaintes de l'arbre et les soupirs des nuits. Cette mystique de la nature s'oppose alors aux religions qui sont au service d'un pouvoir injuste, de la violence et de la guerre. Ce qui s'oppose à cette nature sainte est le mal aux yeux de Rimbaud. Tandis qu'une folie épouvantable broie et fait de 100 milliers d'hommes un tas fumant, pauvre mort dans l'été, dans l'herbe, dans ta joie, nature, ô toi qui fis ces hommes saintement. Rimbaud, en fugue pendant la guerre franco-prussienne, a-t-il croisé des cadavres? Son Dormeur du Val illustre bien cette horreur contre nature. Le soldat jeune, au lieu de grandir, devient enfant puis nourrisson bercé par la nature. Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme sourirait un enfant malade, il fait un somme. Nature, berce-le chaudement, il a froid. Dans les Cahiers de Douai, le poète s'éloigne progressivement de la ville. Dans Roman, la promenade des tilleuls est encore trop proche de la ville pour offrir une véritable ivresse. Les tilleuls sentent bon dans les bons soirs de juin. L'air est parfois si doux qu'on ferme la paupière. Le vent chargé de bruit, la ville n'est pas loin, a des parfums de vigne et des parfums de bière. Dans les réparties de Nina, le poète un peu naïf voudrait partir avec son amante goûter cette ivresse du vin du jour, mais au conditionnel, Nina reste une citadine. Lui, Ta poitrine sur ma poitrine, hein, nous irions aux frais rayons du bon matin bleu qui vous baigne du vin du jour. Dans ma bohème, cette liberté trouvée sur les chemins est comparée à la musique des étoiles, matérialisée par une rosée enivrante. Les cailloux des chemins sont des rimes. La poésie est un parcours du petit poussé. Mes étoiles au ciel avaient un doux froufrou, et je les écoutais assis au bord des routes, ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes de rosée à mon front comme un vin de vigueur. Et ainsi, le voyage n'est pas forcément une destination, c'est l'errance. Dans Rêver pour l'hiver, le wagon rose, toujours en mouvement, est en soi un lieu de retrait hors de l'hiver. Le cabaret vert n'est qu'une étape. Chez Rimbaud, le voyage est synonyme de liberté et donc de bonheur. Depuis 8 jours, j'avais déchiré mes bottines aux cailloux des chemins. J'entrais à Charleroi, au cabaret vert. Rimbaud porte souvent un regard amusé sur l'adolescent qu'il est. Dans Roman, par exemple, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Au présent de Vérité Générale, résonne comme une anti-morale. En répétant ce même vers à la fin du poème, le parcours initiatique revient au point de départ. Manifestement, la véritable liberté pour Rimbaud se trouve au-delà de ses tilleuls doucereux. Ophélie tombe dans la folie et dans la mort pour avoir écouté des paroles de liberté. Ô pâle Ophélia, belle comme la neige, oui tu mourus enfant par un fleuve emporté, c'est que les vents tombant des grands monts de Norvège t'avaient parlé tout bas de l'âpre liberté. Le dormeur Duval, victime d'enjeux politiques qui le dépassent, ne deviendra jamais adulte. De même, le grand squelette du bal des pendus, tiré par la cravate, ne peut pas prendre son envol. Oh, voilà qu'au milieu de la danse macabre, bondit par le ciel rouge un grand squelette fou. Mais se sentant encore la corde raide au cou, avec des cris pareils à des ricanements, rebondit dans le bal au chant des ossements. On trouve d'autres morts au nom de la liberté dans les cahiers de Douai, et le poète nous défie de les réveiller. Ô millions de Christ aux yeux sombres et doux, nous vous laissions dormir avec la République, nous courbés sous les rois comme sous une trique. Et en effet, ces morts se réveilleront, car chez Rimbaud, il est impossible d'éteindre la soif de liberté, alors qu'au contraire, la soif de pouvoir s'éteint dans le regard de l'empereur. C'est le sens de Rage de César, où Napoléon III est caricaturé. L'homme pâle le long des pelouses fleuries, chemine en habit noir et le cigare aux dents. L'homme pâle repense aux fleurs des Tuileries, et parfois son œil terne a des regards ardents. Napoléon III est aussi caricaturé dans l'éclatante victoire de Sarrebruck, où le poète reprend les termes de la propagande pour les détourner avec ironie. Et vive l'empereur ! Son voisin reste quoi ? Bouquillon, rouge et bleu, très naïf sur son ventre, se dresse et, présentant ses derrières, de quoi ? Napoléon III est empereur, certes, mais de quoi ? Le geste final a plus de sens qu'il n'y paraît. Il règne sur les fesses des soldats, mais pas sur leurs pensées. Mettre en poésie une caricature, gravure belge brillamment coloriée, c'est dire que la poésie dépasse la simple image. Ce poème est en mouvement, l'apparition des personnages est scénarisée, etc. La caricature emprunte alors naturellement au théâtre. Dans Le Châtiment de Tartuffe, représenter sur scène les défauts du pouvoir dominant, c'est une véritable mise à nu. Le mot « châtiment », qui renvoie à l'œuvre de Victor Hugo, laisse deviner que derrière le faux dévot, c'est encore l'empereur qui est visé. Dans « À la musique », la place du village est une caricature de l'ordre même de la société, la fanfare militaire au centre, les bourgeois devant, et plus on s'éloigne, moins les classes sociales sont élevées. Le poète à l'écart n'est pas épargné par l'ironie. La représentation du poète dans « À la musique » est un bon exemple d'autodérision. « Moi, je suis débraillé comme un étudiant sous les marronniers verts, les alertes fillettes. Elles me trouvent drôle et se parlent tout bas. » Et je sens les baisers qui me viennent aux lèvres. Son attitude annonce le personnage principal de Roman, trop désinvolte pour réellement prendre son envol. Les marronniers verts préfigurent les tilleuls verts de la promenade. On retrouve cette figure de poète, rêveur, sentimental, sensible à l'appel de la nature, mais velléitaire, dans Les réparties de Nina, où il se compare maladroitement à un papillon. Riant à moi, brutale d'ivresse, oh qui boirait ton goût de framboise et de fraise, oh chair de fleurs. Mais de nombreux autres personnages sont visés par l'ironie de Rimbaud, qui passe souvent par l'oxymore. Tartuffe est effroyablement doux, l'empereur de la victoire de Sarrebruck est flamboyant, féroce et doux. Au milieu, l'empereur, dans une apothéose bleue et jaune, s'en va raide sur son dada, flamboyant, très heureux, car il voit tout en rose, féroce comme Zeus et doux comme un papa. Dans ce passage, on remarque aussi la ponctuation étrange, virgule point d'interrogation, ou encore l'apothéose très abstraite qui rime avec le coloriage rose de la gravure, et l'allitération en F qui renforce encore l'hyperbole. Ces exagérations sont ironiques. Que ce soit pour se moquer de la désinvolture d'un poète velléitaire, jouer de ses émotions amoureuses, ou de l'excès de soif de pouvoir d'un empereur, on le voit, l'ironie de Rimbaud est au service d'une révolte. La fin de Mort de 92 est une double indignation qui passe par deux pronoms personnels. C'est à nous, nous qui sommes tyrannisés, qu'ils osent parler de vous, vous les martyrs de la liberté. La rébellion passe donc de manière exemplaire par l'opposition. Par exemple, le mal est un diptyque, annoncé par les premiers mots « tandis que », d'un côté les guerres, de l'autre un dieu cupide. Il est un dieu qui se réveille quand des mères ramassées dans l'angoisse et pleurant sous leur vieux bonnet noir lui donnent un gros sou lié dans leur mouchoir. On retrouve un autre jeu de contraste dans le poème « Les effarés ». Des enfants, chatons affamés, tremblent de froid derrière la grille du soupirail, tandis que le pain cuit dans le four. Symboliquement, ces enfants sont prisonniers de la misère, ils ne peuvent pas se révolter. Rimbaud met alors en action un véritable personnage de révolutionnaire, le forgeron, montre à Louis XVI le peuple par la fenêtre. Dans l'anecdote originale, c'est un boucher qui interpelle le roi. Rimbaud en fait un forgeron. Comme le poète, c'est un créateur. Chez Rimbaud, l'ironie et la rébellion participent à une dynamique créatrice. L'exemple le plus frappant, c'est l'évolution poétique de « Soleil et chair » au « Cabaret vert », où on retrouve les mêmes thèmes, mais traités de manière différente. « Soleil et chair », dans le style parnassien, célèbre les déesses accompagnant Vénus, produisant un débordement de soleil et de mousse. Et tandis que Cypris s'étale fièrement lors de ses larges seins, dans la clairière sombre où la mousse s'étoile, la dryade regarde au ciel silencieux. Au cabaret vert est une petite scène de genre réaliste, mais on y retrouve ce personnage féminin, avatar de Vénus, versant une bière qui mousse au soleil. Et ce fut adorable, quand la fille aux tétons énormes, aux yeux vifs, m'emplit la chope immense avec sa mousse que dorait un rayon de soleil arriéré. Dans cette dynamique créatrice, Rimbaud assume progressivement des thèmes simples. Les aspirations élevées des romantiques et des parnassiens laissent place à la réalité du quotidien, qui est revendiquée à la même époque par les réalistes et les naturalistes. Un poème de Rimbaud est un véritable tournant dans sa production. Vénus Anadyomène renverse une icône qu'il révérait pourtant, Vénus. La poésie doit pouvoir tout décrire, s'attacher aux pires détails. Les reins portent deux mots gravés, Clara Vénus, et tout ce corps remue et tend sa large croupe, belle hideusement d'un ulcère à l'anus. Dans ce poème, Rimbaud reprend tout un héritage littéraire et artistique. Alors que les romantiques ont osé parler de tout, les réalistes ont osé le faire sans l'idéaliser. Voilà le sens de l'oxymore inventé par Rimbaud, belle hideusement. Rimbaud pastiche des auteurs qui l'ont précédé. Il les détourne, les imite avec ironie, ou leur rend hommage. On retrouve du bovarisme dans la décevante éducation sentimentale de Roman. Dans ce poème, Rimbaud s'inspire de Flaubert et en fait une sorte de synthèse poétique. Ophélie est un personnage de Shakespeare. Fiancée à Hamlet, prince du Danemark, elle assiste à l'assassinat de son père et se suicide dans une rivière. Elle devient chez Rimbaud une figure qui prépare le dormeur du Val, victime des intrigues humaines. Le bal des pendus s'inspire de l'œuvre de Villon pour défendre les poètes, symboliquement condamnés pour hérésie. Ils ne partagent pas la religion de l'ordre dominant, hypocrite et oppressant. Au gibet noir, manche aimable, danse, danse les paladins, les maigres paladins du diable, les squelettes de Saladin. Le châtiment de Tartuffe offre une étonnante synthèse de l'esprit vengeur qui habite à la fois l'œuvre de Molière et celle de Hugo, mêlant habilement théâtre et poésie. L'homme se contenta d'emporter ses rabats. Peu, Tartuffe était nu du haut jusqu'en bas. Cet esprit vengeur est aussi celui de Voltaire. Rimbaud veut à son tour écraser l'infâme, en écrivant Le Mal, qui s'inspire d'un passage célèbre de Candide. Tandis que les deux rois faisaient chanter des Te Deum chacun dans son camp, il passa par-dessus des tas de morts et de mourants et gagna un village voisin. Enfin, Rimbaud admire énormément Baudelaire, qu'il considère comme le premier voyant, roi des poètes, un vrai dieu. Rimbaud va donc imiter Baudelaire et proposer une vision, à partir d'un simple objet du quotidien, un buffet, qui prendra une dimension allégorique. Ô buffet du vieux temps, tu sais bien des histoires, et tu voudrais compter tes contes, et tu bruis quand s'ouvrent lentement tes grandes portes noires. Ces visions peuvent être euphoriques. Par exemple, Soleil et Cher représente un monde antique, mythique et idéalisé. Je regrette les temps de la grande Cybèle. L'homme suçait heureux sa mamelle bénie comme un petit enfant jouant sur ses genoux. Parce qu'il était fort, l'homme était chaste et doux. Mais ce monde idéal entre en contraste avec le temps présent. Misère, maintenant il dit, je sais les choses, et va les yeux fermés et les oreilles closes. Au contraire, pour Rimbaud, le voyant ouvre ses sens et ne prétend pas savoir les choses, car il cherche l'inconnu. C'est ce qu'il explique dans sa célèbre lettre du voyant à Paul Lémony. Il arrive à l'inconnu et quand affolé, il finirait par perdre l'intelligence de ses visions, il les a vues. Mais c'est un travail dangereux et par son élaboration poétique, il poursuit l'œuvre de ses prédécesseurs. Le bondissement du grand squelette du bal des pendus prend alors tout son sens. Qu'il crève dans son bondissement par les choses inouïes et innombrables, viendront d'autres horribles travailleurs. Ils commenceront par les horizons où l'autre s'est affaissé. Ophélie préfigure ce poète voyant, affolé par ses visions. La rencontre avec ses valeurs fortes, amour, liberté, vérité, est bouleversante. C'est le dérèglement de tous les sens. Ciel, amour, liberté, quel rêve aux pauvres folles. Tu te fondais à lui comme une neige au feu. Tes grandes visions étranglaient ta parole et l'infini terrible effara ton œil bleu. Ce mot effaré se retrouve dans le titre d'un autre poème. Dans Les effarés, les enfants observent un pain cuire par le soupirail d'une boulangerie. Un symbole de l'humanité qui contemple des flammes et des ombres. Quand ce trou chaud souffle la vie, ils ont leur âme si ravie qu'ils sont là tous, collant leurs petits museaux roses au grillage chantant des choses entre les trous. On retrouve ici en filigrane le mythe de la caverne de Platon. Pour Platon, le philosophe peut sortir de la caverne pour décrire le monde des idées, dont le monde réel n'est qu'une projection. Chez Rimbaud, ce rôle est dévolu au poète. Si ce qu'il rapporte de là-bas a forme, il donne forme. Si c'est informe, il donne de l'informe. Cela lui donne alors une responsabilité extraordinaire. Comme Prométhée, le grand révolté de l'Olympe, il vole cette lumière de la connaissance pour la donner aux hommes. Donc le poète est vraiment voleur de feu. Il est chargé de l'humanité et des animaux même. Il devra faire sentir, palper, écouter ses inventions. Dans Les effarés, les orphelins sont un peu comme des chatons, le museau collé au grillage. Le poète voudrait voler ce feu pour le donner aux enfants. Peut-être que le pain crépitant ou le boulanger qui chante un vieillard incarne cette poésie chantante. Ils écoutent le bon pain cuire. Le boulanger au gras sourire chante un vieillard. Le forgeron est un avatar de ce boulanger. Par sa proximité avec le feu, c'est aussi un créateur. Mais il forge des armes, des outils pour se défendre, se révolter. Et quand il montre le peuple par la fenêtre au roi Louis XVI, ce ne sont plus des chatons, mais une meute qui hurle. Libérés, ils sont comme des chiens, on les insulte. Alors ils ont là quelque chose qui leur fait mal, allez. C'est terrible et c'est cause que se sentant brisés, que se sentant damnés, ils viennent maintenant hurler sous votre nez. La flamme est à la fois celle de la connaissance, celle du savoir et celle de la liberté. Dans Rage de César, les ambitions de l'empereur partent en fumée, tandis que la flamme de la liberté se rallume. Il s'était dit, je vais souffler la liberté bien délicatement ainsi qu'une bougie. La liberté revit, il se sent éreinté et regarde filer de son cigare en feu comme au soir de Saint-Cloud un fin nuage bleu. Ce poème est une petite énigme. On disait souvent que Napoléon III était un sphinx. À quoi pense l'empereur ? Rimbaud laisse au lecteur le soin d'interpréter sa propre vision. Transmettre la flamme au lecteur, c'est aussi lui transmettre l'inspiration. Voici donc un dernier thème bonus. Dans Première soirée, la première strophe est répétée à la fin, mais ne dit plus la même chose. Elle ménage une certaine pudeur pendant que le lecteur prend la place de grands arbres indiscrets. Elle était fort déshabillée, et de grands arbres indiscrets aux vitres jetaient leurs feuillets, malignement, tout près, tout près. De même, dans Le Buffet, Rimbaud ne dit pas au lecteur ce qu'il doit imaginer, il lui donne simplement les bornes de la vie humaine, mèches blondes des nouveau-nés, mèches blanches prélevées sur des lits de mort, à nous d'imaginer les générations qui ont vécu. C'est là qu'on trouverait les médaillons, les mèches de cheveux blancs ou blonds, les portraits, les fleurs sèches, dont le parfum se mêle à des parfums de fruits. Le dernier poème du recueil, Ma Bohème, donne au lecteur une liberté d'interprétation inédite et ouvre déjà la voie aux illuminations et à une saison en enfer. Où, rimant au milieu des ombres fantastiques, comme au délire je tirais les élastiques de mes souliers blessés, un pied près de mon cœur. La sœur de Rimbaud raconte qu'un jour que leur mère demandait à Rimbaud le sens d'un poème, il lui répondit « Ça veut dire ce que ça veut dire, littéralement et dans tous les sens. » Rimbaud est l'un des premiers à donner une telle liberté d'interprétation à son lecteur. Il nous inspire et nous incite à devenir créatifs à notre tour dans nos interprétations. Pour les surréalistes, après Rimbaud, le véritable poète est celui qui inspire les autres. Paul Éluard l'écrit dans la préface d'un recueil collectif, Ralentir travaux. Le poète est celui qui inspire bien plus que celui qui est inspiré. Les poèmes ont toujours de grandes marges blanches pour recréer un délire sans passé. Leur principale qualité est non pas d'invoquer, mais d'inspirer.